coq chanté jour paraît, tous ces debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
De monter, on est monté. Aujourd'hui, le coq chante vous amène aux journées techniques agrifaune sur le site expérimental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage de Saint-Benoît à Oufargis.
Président, vous allez bien?
Le programme agrifaune est une affaire qui a mobilisé de nombreux partenaires. L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, la Fédération nationale des chasseurs, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Et pourquoi un tel programme? Il s'agit de répondre aux enjeux de la transition écologique en développant des pratiques agricoles favorables à la biodiversité et à la préservation de la faune sauvage. Pour faire plus simple, chaque élément de la nature a son rôle et son importance. Dans de telles conditions, comment faire pour que les chasseurs ne détruisent pas des éléments indispensables à la production agricole? Et comment faire pour que les pratiques agricoles ne détruisent pas le gibier qui intéresse les chasseurs? Saint-Benoît, c'est un site expérimental de 400 hectares qui reçoit pour ses journées techniques près de 150 participants, techniciens de fédération du chasseur ou conseillers des chambres d'agriculture. Comment fonctionne ce programme agrifaune? C'est la première question que nous avons posée à Pascal Ferret, agriculteur et éleveur en Normandie, président de la Chambre d'agriculture de la Manche, membre du bureau de l'APCA et référent biodiversité.
Dans l'agrifaune, vous avez l'ensemble de la thématique agri-agriculture, agriculteur, faune, faune sauvage, chasseur. Et cette contraction d'agrifaune permet effectivement depuis une quinzaine d'années d'avoir réuni dans la même salle de réunion, des gens qui normalement n'auraient pas dû se causer facilement, des agriculteurs et des chasseurs.
Là, c'est difficile.
Ça peut être difficile, surtout qu'on parle des gars de gibier. Mais avant de parler de ce qui nous fâche, on a parlé de ce qui pouvait nous réunir. Et entre autres, sur tous les éléments de langage comme la biodiversité, les rotations de culture, la protection des cultures au gibier, fait que l'ensemble de ces sujets, depuis 15 ans, sont évoqués et les quatre organisations se voient régulièrement pour effectivement avoir des thématiques communes.
Si j'ai bien compris votre préoccupation dans cette affaire, c'est comment préserver la biodiversité et produire, parce que l'agriculteur, son but, c'est de produire.
Voilà, depuis l'ère moderne de l'agriculture, c'est-à-dire les années 60, on s'est préoccupé de l'augmentation des rendements, de la protection des cultures, sans des fois s'occuper de la protection de ce qui nous bordait, nous avoisinait, c'est-à-dire les éléments naturels, les bosquets, la végétation naturelle.
Et les animaux.
Et des animaux qui, à l'époque, étaient aussi assez régulés. Maintenant, effectivement, il y a eu un changement comportemental, des pratiques agricoles totalement simplifiées, pas trop de diversification. En plaine, on faisait trois cultures, du blé, du maïs, et puis de la betterave ou du colza. Et on s'est retrouvé avec un territoire qui s'est spécialisé en gibier. Et donc, dans le maïs, dans les céréales, vous retrouviez énormément le sanglier, etc. Et à un moment donné, on s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et en faisant ce constat, on s'est aperçu qu'il y a eu un appauvrissement de la biodiversité naturelle, ordinaire, parce que les pratiques agricoles, parce que la métamorphose de nos pratiques avait fait un changement total et radical du gibier, disparition, par exemple, du gibier à plumes, pour arriver plutôt du gibier à poil.
Ah, c'est-à-dire que le gibier s'est adapté à ce que vous cultiviez.
Le gibier s'est adapté à ce que l'on cultivait et certains en ont vu une opportunité économique et on a vu effectivement arriver de grands domaines achetés par des amoureux de la chasse. Je dis amoureux avec deux points d'interrogation où effectivement on s'est retrouvé avec des fermes qui cultivaient non plus les cultures mais qui cultivaient le chevreuil, le cerf ou le sanglier pour en faire une culture de rente.
Ah, c'est-à-dire qu'ils cultivaient du maïs? Voilà. Et pour attirer...
Voilà, et ils vendaient des journées de chasse. Et donc, on s'est retrouvé effectivement avec des dégâts de gibier absolument invraisemblables. Et depuis 30 ans, on s'aperçoit effectivement qu'un certain nombre d'animaux sauvages se sont parfaitement adaptés à la métamorphose. Maintenant, les choses ont changé, et on ne va plus corriger le sens de l'histoire. Ce qu'il nous faut, c'est effectivement adapter nos pratiques de chasse et les pratiques agricoles pour que chacun, les uns et les autres, s'y retrouvent. Et surtout, redonner un sens à la biodiversité, parce que la biodiversité, toute proportion gardée, un accident industriel, un accident de pollution lié à des pesticides, vous réparez cet accident, ça mettra 2 ans, ça mettra 5 ans, ça mettra 10 ans, mais vous réparez. Quand vous faites disparaître des éléments de biodiversité, elle disparaît à jamais. Et ça, c'est préjudiciable dans l'intérêt de l'homme en général.
C'est qu'à un moment donné, vous, chambre d'agriculture, enfin, tous ceux qui sont intéressés à cette affaire, vous êtes aperçus que la biodiversité s'appauvrissait et l'agriculteur tout seul, ça ne règle pas le problème. Là, vous avez été obligé de réunir tous les partenaires dans une salle.
Et on s'est aperçu que plus le territoire s'appauvrissait, plus il appauvrissait l'agriculture.
Ah, c'est ce que vous appelez le damier, c'est-à-dire que là, je vois un champ de maïs, puis un champ d'autres choses, puis... on varie quoi.
Voilà, c'est un territoire bien géré est un territoire multidimensionnel. C'est-à-dire que vous avez du pâturage, vous avez de la culture. Dans la culture, vous avez éventuellement des cultures vivrières, mais vous pouvez avoir d'autres cultures. Vous avez de la prairie, vous avez des massifs forestiers, vous avez des arbustes ou des îlots d'arbustes, ce qui fait qu'effectivement, plus vous avez cette diversité, plus vous aurez une diversité de la faune sauvage, qu'elle soit florale ou qu'elle soit faunistique. Et c'est ça la richesse d'un territoire. D'où l'intérêt de garder des espaces absolument partagés.
Alors, vous vous êtes réunis, vous avez discuté, vous avez dit il faut qu'on fasse quelque chose, d'où l'idée d'Agrifaune est venue. Alors, ça consiste en quoi? Quel type d'action constitue cette Agrifaune?
Alors, dans les types d'actions, je vais en prendre une, la plus symptomatique. Aujourd'hui, le matériel agricole grossit très vite. Il est de plus en plus puissant, de plus en plus moderne.
Ah oui, j'ai vu des tracteurs. C'est de vraies usines.
Ce sont des vraies usines et des vrais bijoux de technologie. Ils ont des radars, des lasers embarqués, etc. Ces tracteurs-là, qui hier, par exemple, je prends l'exemple qu'on voulait faire une fauche au printemps pour faire une récolte d'herbe pour vos bovins, ou faire du foin. Vous fauchez, dans le temps, on fauchait à 5-6 km/h. Aujourd'hui, nous avons des engins, sur une largeur de 2,50 m. Maintenant, on fauche à 20-25 km/h sur 9 mètres de large. Un 5-6 km de 2,50 m, votre gibier, il se barre devant vous. Et je me gare les pattes parce que alors que, à 25 km, il a pas eu le temps d'y rouf. Le jeune lièvre, lui, il passe dans la machine, il est broyé. Et donc, on a mis au point des barres d'effarouchement, des pratiques culturales pour éviter ce massacre de la Saint-Barthélemy, du lièvre et du faon. Et donc, ça, c'est des opérations concrètes et qui marchent bien. Dans Macuma, ma coopérativisation de matériel agricole, le tracteur qui fait la fauche au printemps, est équipé d'une barre d'effarouchement. C'est une barre de fer avec des chaînes qui pendent, qui fait du bruit, et on dit au chauffeur, tu ne dépasses pas les 15 km/h. Voilà un exemple concret de ce que nous avons pu faire ensemble.
Et il y a aussi les bordures de champs.
Alors, il y a les bordures de champs, il y a effectivement tout ce qui tourne autour de refermer une mosaïque autour des parcelles, mais aussi d'autres actions qui conduisent à reforester en linéaire des petits massifs pour offrir des abris à la petite faune, aux perdrix, aux petites bêtes à plumes. Donc, ces démarches communes et collégiales, en général financées avec l'ONFSS, permettent effectivement à remettre des arbres où il n'y en a plus, à en mettre là où il y en a moins, et surtout à avoir un visage qui correspond à la naturalité normale de votre territoire.
Bah, toutes ces actions coûtent de l'argent, donc il faut aussi que chacun y mette de sa poche.
Oui, enfin, il y a un peu d'argent à investir, c'est indéniable. Et l'Office national de la forêt nous aide. Il y a un argent mis par la PAC sur des actions liées effectivement aux mesures du deuxième pilier, mais aussi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de patience, parce que vous construisez un territoire, il faut de la longueur et de la persévérance.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Voilà pour le principe général. Sur le terrain, ce dispositif Agrifaune est constitué de 150 structures engagées dans toute la France, 5 groupes techniques nationaux, 30 lycées agricoles et 68 départements. Valentin Hermouet est ingénieur agronome, chargé de mission viticulture à la Fédération départementale des chasseurs de la Gironde.
Exactement, moi je suis sur la partie vraiment gestion synergétique des projets en lien avec Agrifaune. On travaille sur des pratiques qui justement qui vont dans le sens de l'intérêt agronomique et de l'intérêt cynégétique, donc l'intérêt pour l'agriculteur et pour les chasseurs.
Alors, on est sur votre centre, on va commencer par les produits phytosanitaires. Vous avez dit une utilisation raisonnée.
Une utilisation raisonnée, justement, à travers le développement de certaines pratiques qui permet de réduire l'utilisation des intrants. Notamment, on parle de plantation de haies autour des parcelles. Donc là, on a vraiment intérêt, justement, à promouvoir ces méthodes-là de manière à si vous voulez, limiter derrière l'utilisation des intrants de par l'installation de ces éléments-là dans le paysage qui viennent favoriser la biodiversité, les insectes et tout ce cortège en gros d'insectes qui viennent profiter justement à la vigne dans un deuxième temps.
Ah, ça veut dire que par exemple moi viticulteur, j'ai mis ma vigne, j'ai détruit toutes les haies autour, en fait c'est l'habitat des insectes que j'ai détruit.
Alors s'il y a des viticulteurs qui détruisent des haies aujourd'hui, évidemment en détruisant l'habitat, on détruit un certain cortège d'espèces qui sont directement liées à ces habitats. Alors s'il n'y a plus d'habitat derrière, les insectes soit vont migrer sur d'autres espaces, mais nous justement on tend à ramener ces surfaces d'intérêt écologique au sein des vignobles de manière à, si vous voulez, avoir une gestion différenciée des parcelles et une gestion extensive des parcelles viticoles, justement.
Ah, c'est pour ça que quand je vois une vigne, et il y a un rang, il y a des rangées. Exactement. Et entre les rangées, vous avez laissé de l'herbe.
Exactement. C'est pour ça qu'on tend justement à développer un rang sur deux, un rang sur trois, en fonction des systèmes de culture, de l'herbe, soit de l'herbe dans l'enherbement naturel permanent, soit temporaire, soit des couverts qu'on vient semer pour essayer d'augmenter l'intérêt agronomique du couvert en milieu viticole.
Ah, c'est-à-dire que ce couvert fertilise, stabilise le sol, en tout cas est bénéfique.
Exactement, il est bénéfique.
C'est-à-dire que ce système racinaire, là, ça empêche que l'eau amène un maximum de nitrate dans les cours d'eau.
Il faut comparer ça exactement à une éponge, c'est-à-dire qu'elle va capter une partie de l'eau qui va ruisseler et rejoindre justement, comme vous venez de le dire, les cours d'eau, les rivières.
Je vous remercie.
Merci à vous.
À présent, le groupe technique gestion de l'interculture avec Maud Géraud, qui est chargé de mission agriculture et biodiversité à la Fédération des chasseurs d'Occitanie. Il s'agit du temps entre une récolte et les semis suivants, une période bénéfique à la faune sauvage.
L'interculture, c'est la période entre deux cultures. Donc en l'occurrence, sur ce groupe technique, on s'intéresse particulièrement aux intercultures longues qu'on va retrouver entre une céréale à paille, une culture d'hiver, et le semis d'une culture d'été. Donc une période qui est assez longue, entre juillet et avril-mai de l'année suivante.
Alors les cultures d'hiver, c'est quoi par exemple ?
Les cultures d'hiver, ça va être les céréales à paille, blé, orge et le colza, par exemple. Ça, c'est les cultures d'hiver.
Et les cultures d'été ?
Et les cultures d'été, on trouve le tournesol, le maïs essentiellement. Donc ce qu'on va conseiller, c'est déjà de conserver les résidus de culture. C'est-à-dire qu'une fois que la moisson a eu lieu, il reste le bout des tiges de la céréale ou du maïs. Donc on va conseiller aux agriculteurs déjà de laisser ça parce qu'il y a une ressource alimentaire pour la faune sur ces milieux-là. Et derrière, on va lui préconiser d'implanter un couvert pour couvrir le sol et apporter un refuge et une ressource alimentaire pour la faune.
Et ce couvert consiste en quoi ? C'est quel genre de végétaux ?
Alors ce couvert, on propose des choses plutôt diversifiées avec plusieurs espèces dedans pour qui vont à la fois couvrir le sol d'un point de vue agronomique et qui vont aussi avec des espèces qui vont plutôt être à port dirigé, donc qui vont monter et qui vont apporter un refuge pour la faune. Donc ce couvert après, il apporte un refuge pour la faune, mais il a surtout des intérêts aussi agronomiques, c'est-à-dire qu'il va permettre après, il va être restitué au sol et il va permettre de nourrir le sol, d'apporter de l'azote, les éléments qu'il va capter pendant sa croissance dans le sol, il va derrière les restituer au sol et donc à la culture suivante. Et aussi les insectes qui vont pouvoir trouver refuge également dans le couvert et qui vont servir à la chaîne alimentaire, nourrir les oiseaux, etc.
Je vous remercie.
Avec plaisir.
Des donner rendez-vous lors de ces journées techniques agri-faune, le stand du machinisme agricole. Nous sommes reçus par Jean-Michel Vincent, technicien cynégétique à la Fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher.
Ah ben là, en l'occurrence, les chasseurs, les agriculteurs sont parfois sur des mêmes problématiques. Et en l'occurrence, là, c'est d'essayer donc de savoir quel impact peut avoir les travaux agricoles sur la faune sauvage et d'essayer d'en mesurer cet impact. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des travaux de récolte, des fenaisons par exemple, ou du broyage de jachère ou du broyage de couvert, des fois, parfois, malheureusement, des animaux passent dans les machines.
Ils passent dans les machines.
Eh oui. Donc, en utilisant, je dirais, des systèmes d'effarouchement. Alors, on a mis en présentation des barres d'effarouchement.
C'est le grillage que vous avez mis devant le tracteur, là.
Voilà, c'est ça. C'est, alors, le grillage est un grand mot.
Allons voir ça. Il pleut, mais... en fait, quand le tracteur, il bouge... Ça fait du bruit.
Alors là, oui, en effet, vous avez deux modèles. Le premier modèle que vous avez avec des chaînes, en effet, qui est mis à l'avant du tracteur, sur lequel, à l'arrière du tracteur, vous allez avoir donc l'outil de travail, hein, de fauchage. En fait, donc la barre qui est à l'avant du tracteur va permettre donc de faire du bruit. Hein, dans les chaînes vont taper les unes contre les autres, et même après, avec la vitesse, vous pouvez aussi toucher. Hein, si vous avez un faon ou un lièvre qui reste dans le couvert, bah, ça va le toucher, ça va le faire fuir. Hein, donc ça, c'est le but de ce type de matériel. Et vous avez le même modèle à côté qui est là avec un modèle avec des dents rigides, hein, où on n'est pas avec des chaînes. En fait, ces dents rigides vont être plus efficaces dans des couverts de graminées lors des fauches, des prairies et des foins.
Ah, c'est-à-dire que les machines sont devenues plus grosses et plus rapides. Donc le gibier, même s'il entend, il n'a pas le temps de se sauver.
Oui, vous avez raison, hein. C'est vrai que le machinisme évolue, donc toujours plus vite, toujours plus large. Et puis vous avez un autre phénomène, c'est-à-dire que les animaux sauvages, dans leur système de défense, ont deux techniques de défense. Et soit ils vont partir du principe que dès qu'ils entendent un bruit, ils vont fuir, soit ils vont jouer sur le mimétisme en se disant « bah moi, ma couleur, ma fourrure me permet de me dissimuler et en fait, je bouge pas ».
Et vous, chasseurs, agriculteurs, vous avez tous intérêt à ce qu'il y ait cette biodiversité. Et vous avez été obligés d'aller voir les agriculteurs. Les agriculteurs ont été obligés de discuter avec les chasseurs pour trouver ces moyens-là.
Bien sûr, là, l'idée, c'est vraiment de travailler de concert, hein, entre agriculteurs et chasseurs. À la fois pour l'agriculteur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours décevant de voir éventuellement un animal qui passe dans la machine. Et puis, de l'autre côté, le même agriculteur qui peut être aussi chasseur se dit, bah mince.
Ah oui, parce que l'agriculteur peut aussi être chasseur.
Bah oui, les deux cas de figure peuvent se rencontrer. Et donc, de là, il se dit, bah mince, c'est toujours délicat, lors de mes travaux de champ, de tuer des animaux. Et c'est embêtant. Alors les barres d'effarouchement, les premiers modèles datent des années 80, hein, si on veut parler.
Ah, c'est pas nouveau.
Non, on n'a rien réinventé, on a juste amélioré les process. Aujourd'hui, on a des outils avec de l'hydraulique qui automatise le fonctionnement, et donc ça évite à l'utilisateur de descendre du tracteur, de faire des manutentions à la main et quoi que ce soit. Là, c'est vraiment automatisé, ce qui permet d'être plus facile à utiliser pour l'agriculteur.
Ah, c'est-à-dire que là, il vous a fallu des années d'essais, d'adaptation pour arriver à ce résultat-là.
Le but d'Agri-Faune au niveau national, du GTNA machinisme, de se dire, il y a chacun dans son petit coin peut-être avance, mais sans avoir le développement des moyens total. Le fait de créer un groupe technique national permet donc de partager les informations, de voir ce qui fonctionne dans un endroit, peut être recopié plus facilement dans un autre, et d'avancer beaucoup plus vite et d'adapter du machinisme par rapport aux problématiques.
Je vous remercie.
Merci à vous.
Vous restez pas pour le lever de coude ?
Non ! Ça sera pour la prochaine fois.
Allez, bon retour.
Merci de l'accueil.
Nous étions aux journées techniques agri-faune sur le site expérimental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage de Saint-Benoît à Aufargis, une commune française située dans le département des Yvelines, en région Île-de-France. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel, au micro Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission, www.rfi.fr. pour ceux qui veulent nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook, Le Coq Chante. Enfin, pour écouter cette émission sur votre téléphone mobile, vous téléchargez au préalable l'application RFI Pure Radio. Vous faites votre choix parmi les 14 langues et vous vous laissez guider.
Il y a quelqu'un qui manque ?
Apparemment, il y a mon cas.
C'est vrai que les embouteillages, c'est juste. J'avais demandé à la madame.